Vous écoutez, on lit pour vous.
30 ans après la déclaration de Pékin, entretien avec l'eurodéputée Mélissa Camara. Des propos recueillis par Cécile Delacroix, paru le 12 mai 2025 dans Axel. La déclaration de Pékin a 30 ans. États et ONG ont fait le point à New York. L'historique feuille de route pour les droits des femmes est-elle encore pertinente? Qui sont les grands absents de la dernière commission de la condition de la femme? En mars 2025, la 69e session de la commission de la condition de la femme, dite CSW, était marquée par le 30e anniversaire de la déclaration de Pékin de 1995. Une déclaration qui avait vu, pour la première fois, 189 gouvernements signaient un plan d'action mondial en faveur des droits des femmes avec le soutien de l'ONU. Chaque année, des représentants, représentantes des gouvernements, mais aussi des ONG, se rendent à cette conférence afin d'échanger, durant deux semaines, sur les questions liées aux droits des femmes. De la session ressort un texte final ayant pour but de guider les États. Mélissa Camara, eurodéputée française et membre du Parti vert européen, faisait partie de la délégation qui représentait l'Union européenne à New York. Pour Axel, elle revient sur cette édition anniversaire. Comment est-ce que le contexte international et européen a influencé la CSW? Cette année, nous sommes dans un contexte de « backlash », c'est-à-dire de retour de bâton conservateur. On a une coalition internationale d'extrême droite en lien avec des mouvements religieux, en lien avec des organisations réactionnaires qui poussent un agenda. Le plus bel exemple, c'est ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump. Quand il a été élu, il a mis en place un agenda réactionnaire. Et cet agenda, on le retrouve déjà directement ici, au Parlement européen. Les liens transnationaux sont visibles. Il est de plus en plus difficile de parler des droits sexuels et reproductifs, même en Europe. On le voit quand les organisations féministes sont sous-financées, alors que des organisations anti-choix ou anti-genre sont surfinancées par des forces réactionnaires, par des pays comme la Hongrie ou la Russie. Le discours dominant actuellement dans les forces politiques européennes, c'est que le patriarcat n'existe pas en Europe, qu'on aurait atteint des sociétés égalitaires. Dans cette vision, le seul problème des femmes, ce seraient les migrants qui viendraient violer et tuer nos femmes et qui viennent de sociétés vraiment patriarcales. Mais c'est un discours raciste et ultra dangereux, parce que si on estime qu'il n'y a pas de patriarcat en Europe, que l'égalité est atteinte, on n'a pas de politique publique à mettre en place pour arrêter les violences, pour arrêter les mortes, les agressions sexuelles, les viols. Ce discours met en danger toutes les femmes du continent. Et ce contexte impacte directement les négociations à la CSW. Venons-en justement à ces négociations. Pour la 69e édition de la CSW, l'Union européenne a écrit un texte de recommandation. Concrètement, est-ce que ce texte a été suivi? Quels sujets furent d'abord abordés et par qui? En gros, les États de l'Union européenne se sont mis d'accord pour définir des priorités. C'est assez complexe, parce que l'Union européenne est composée de 27 pays, tous représentés à l'ONU. Mais ils se sont mis d'accord ensemble pour établir des priorités. La Commission européenne a ses priorités, le Conseil aussi, qui représente les États, puis le Parlement européen a rédigé un texte de recommandation. Le Parlement européen, notamment, a porté une résolution claire, soutenue par les progressistes, incluant les droits sexuels et reproductifs, l'intersectionnalité et la lutte contre la pauvreté genrée. c'est un texte qui est assez intéressant et qui n'a pas été facile à obtenir dans ce contexte de montée de l'extrême droite. Et donc, les États membres étaient censés prendre ce texte du Parlement européen en compte dans les négociations. Mais pour parler en toute franchise, le Parlement européen n'a pas été vraiment impliqué dans le suivi de cette résolution, donc dans les discussions ultérieures. Le texte et ses recommandations étaient clairs. Pourtant, on ne sait pas à quel point ces priorités ont été prises en compte et quelles étaient exactement les priorités des négociateurs et négociatrices pour l'Union européenne. Il y a eu un manque de communication et de transparence de la part du Parlement européen. Concrètement, ce qui a beaucoup été discuté lors de cette CSW, c'est le contexte de backlash. Ce sont les ONG présentes qui l'ont amené dans les discussions, mais aussi des personnalités officielles européennes. Toutes les organisations féministes rencontrées ont parlé de ce contexte difficile, de ce climat hostile aux droits des femmes. Ce climat a été central dans les négociations sur le texte de déclaration politique, mais aussi dans les prises de parole en séance plénière. Mais je voudrais avant tout souligner les grands absents du texte final, les droits sexuels et reproductifs. Aujourd'hui, ils sont l'un des enjeux majeurs dans le monde. L'une des premières choses que font les régimes réactionnaires quand ils arrivent au pouvoir, c'est de s'attaquer aux droits des femmes, et notamment via leurs utérus. Il n'y a pas non plus de mention spécifique des droits des personnes LGBT, alors qu'on sait que l'offensive contre les personnes LGBT est énorme partout. C'est un grand classique de les cibler quand on veut mettre à mal la démocratie. Qui sont les femmes qui ont été considérées par la CSW si toutes ne sont pas citées dans le texte final? L'idée qu'avait l'ONU lors de la création de la CSW en 1946 était de protéger absolument toutes les femmes. En 2025, ce qui a fait la force de ces rencontres, c'est qu'on avait des activistes, des ONG, des États. On avait une représentation assez globale de la diversité des femmes, notamment dans les événements organisés en marge de la conférence qui ont pour but de mettre en lumière des sujets ou des enjeux spécifiques liés aux droits des femmes. La CSW, c'est un moment où les ONG se retrouvent, essayent d'échanger, d'avoir un contact avec des décideurs politiques. Ces moments d'échange permettent de créer les conditions d'un front commun. Mais toutes les femmes ne se retrouvent pas dans le texte final. Oui, effectivement. Est-ce que le cadre de la SW reste pertinent, selon vous, pour défendre les droits des femmes au niveau international? Aujourd'hui, dans le monde, aucun pays n'a atteint l'égalité totale, même les pays les plus avancés. Donc tout est absolument d'actualité. Oui, il y a des limites diplomatiques. On ne peut pas pousser beaucoup plus loin certains États. À un moment, quand on est féministe, parvenir à un consensus sur les droits des femmes, cela crée toujours un texte avec des absences, des lacunes. Mais le multilatéralisme reste important. En tant que militante féministe, je pense que cela ne va pas assez loin, c'est sûr. Une déclaration politique, ce n'est pas forcément contraignant, mais c'est une boussole. Face à cette période de recul, l'Union européenne doit porter une diplomatie féministe forte. Je donne un exemple très franco-français, mais quand on inscrit l'IVG dans la Constitution, ça a des répercussions dans d'autres pays. Cela donne du courage à d'autres femmes politiques féministes ailleurs. Si la France l'a fait, on peut le faire, on peut se battre pour ça. C'est ça aussi l'intérêt de cette solidarité internationale, porter une vision féministe du monde et des politiques publiques à mettre en place. Ce qui se passe à Paris, ce qui se passe à Bruxelles ou ailleurs, a toujours un impact quelque part. Je pense surtout que la question qu'il faut se poser, c'est « Est-ce que cette CSW a un impact positif dans le monde ?» Pour moi, Réunir des politiques et des activistes du monde entier pendant 2 semaines pour échanger sur les droits des femmes, c'est toujours bénéfique. N'existe-t-il pas un risque que certains États se cachent derrière leur participation à ce genre d'événement afin de s'abstenir de faire un réel changement politique en matière de droits de femmes? Si, clairement, on pourrait parler de féminisme washing de certains États, mais oui, dans ce type d'événement, il y a toujours une forme aussi d'hypocrisie. Mais ça en vaut la peine, parce que c'est aussi symbolique en soi. Pour la société civile, ça veut dire quelque chose quand les thématiques féministes sont portées par leurs représentants, représentantes politiques. Il y a une phrase que j'ai retenue de cette CSW. Elle vient de Gertrude Mongella, qu'on appelle « Mama Beijing », parce qu'elle était vraiment là au moment de Pékin en 1995. Elle explique que parfois, le chemin paraît long, on est fatigué, on veut s'arrêter, mais il faut continuer. Il le faut, ça résonne en moi. Parfois, la lutte est très dure. Parfois, on est découragé, mais il faut continuer d'avancer pour nos droits. Keep walking. C'était 30 ans après la déclaration de Pékin. Entretien avec l'eurodéputé Mélissa Camara. Des propos recueillis par Cécile Delacroix, paru le 12 mai 2025 dans Axel.
Mes potagers de rue. Un texte de Bernard Lavallée, paru le 6 juillet 2025 dans Le Devoir. 5 ans après avoir adopté 2 saillies de trottoirs sur ma rue pour les transformer en potagers, je vous livre mes réflexions sur les joies et les défis de l'agriculture urbaine dans les lieux publics. Cultiver dans le béton. En 2020, des saillies de trottoirs qui venaient d'être creusées sur ma rue ont été abandonnées par la ville à cause d'un certain virus. Plutôt que de laisser les pissenlits et l'herbe à poux coloniser ces trous de terre, j'ai décidé d'adopter ce que j'appelle aujourd'hui mes potagers de rue. Je jardine depuis longtemps et je suis convaincue des bienfaits de l'agriculture urbaine. Mais il existe un monde de différence entre les quelques pots sur mon balcon et des saillies de trottoirs de dizaines de mètres. Malgré tout, ma naïveté et mon équipement sommaire me permettent de verdir mon coin depuis tout ce temps. On est à Montréal, entouré de béton. Si les potagers urbains aident à combattre les îlots de chaleur, il faut quand même leur donner une chance. Le premier gros défi, c'est le manque d'eau. Je n'ai pas accès à une source d'eau à proximité. Alors, je passe beaucoup de temps, surtout en début de saison, à faire des allers-retours entre mon évier de cuisine et mes parcelles. Je perçois différemment les jours de pluie depuis. Avec le temps, j'ai aussi compris que certaines plantes toléraient mieux la chaleur extrême de la ville. J'ai testé, avec succès, les piments de toutes sortes, le curcuma, le gingembre, les patates douces, les tomatillos et les arachides. Et je suis persuadée que d'autres plantes des pays chauds se plairaient aussi dans mes parcelles. Jardin public. Pour moi, il était clair que jardiner dans un lieu public voulait dire que mes récoltes seraient offertes à tous. Je voulais donc des végétaux qui produisent beaucoup, que les gens reconnaissent et qu'ils peuvent cueillir facilement. Une année, j'ai testé les tomates cerises. Les plants sont devenus des monstres indomptables. Ils rampaient les uns sur les autres, donnant l'impression d'un immense buisson long de 20 mètres. J'estime avoir produit au moins 1 millier de tomates cet été-là. Sans engrais, et presque sans arrosage. C'était fascinant. Je me suis beaucoup amusée à voir mes voisins se transformer en explorateurs et pénétrer cette jungle tomatée pour cueillir quelques fruits. Ils m'ont longtemps remercié pour cette manne inespérée. Mais je n'ai jamais répété cette expérience parce que ça avait l'air d'un fouillis complet. Aujourd'hui, la jungle de tomates a laissé sa place à un champ de petits fruits. Fraises, bleuets, cameries, amélanches et cassis, qui remplit exactement la même fonction. Mais lieu public est aussi synonyme de vulnérabilité aux gestes d'autrui. Au-delà de ceux qui laissent leurs canins utiliser mes lopins de terre comme des litières, il y a ceux qui volent les plantes. Et oui, cela inclut même des petits buissons implantés depuis des années. Mon cœur se fend toujours un peu quand je découvre un trou là où se trouvait un de mes bébés. À l'inverse, certaines plantes apparaissent, des cadeaux du voisinage. Ça me réconforte et m'aide à oublier les malfaiteurs. L'attente du monarque. D'autres visiteurs se doivent aussi d'être récompensés. Les potagers urbains peuvent contribuer à la sauvegarde de la biodiversité végétale et des insectes. Une partie de mes potagers est réservée aux fleurs indigènes. Les asclépiades ont rapidement pris le dessus et j'espérais voir débarquer les monarques par centaines. J'ai rapidement compris qu'il me fallait un peu plus de diversité pour alimenter les nombreux pollinisateurs urbains. J'ai donc planté de nombreuses espèces vivaces qui fleurissent toute la saison. Et surtout, les insectes qu'elles attirent animent le jardin toute la journée. Après 4 ans, j'ai enfin aperçu mon premier monarque. Une maman qui était venue pondre ses œufs. Je l'ai regardée longtemps, fière, déposer ses cadeaux inestimables. Les récoltes intangibles. Chaque jour, je vois des gens se promener autour des jardins. Ils observent, sentent, goûtent. Ils prennent même parfois des photos. C'est aussi un lieu d'apprentissage. Des parents enseignent à leur progéniture comment poussent les aliments. Chaque fois que je sors jardiner, lire ici désherbé, des voisins viennent me parler. Ils discutent de leur potager, me posent des questions sur les différentes plantes, me demandent comment les apprêter. Ils me racontent ce qu'ils ont cuisiné avec leur récolte et surtout, ils me remercient toujours. Ces gens de mon quartier, je ne leur aurais probablement jamais parlé sans mes potagers. Au-delà des fruits et des légumes, ils m'ont permis de tisser des liens avec ma communauté. Et je réalise aujourd'hui que ces récoltes intangibles sont probablement les plus délicieuses. C'était mes potagers de rue. Un texte de Bernard Lavallée, paru le 6 juillet 2025 dans Le Devoir.
Les aides, fascinés par les longues distances. Un texte d'Alexandre Pratt, paru le 19 septembre 2025 dans La Presse. Quand j'étais enfant, le marathon était une curiosité. Une activité qui fascinait mes oncles et mes tantes au mi-temps de leur vie. Les plus jeunes, pas tant. Je n'ai aucun souvenir d'avoir vu des vingtenaires courir autour de chez mes parents, même si nous vivions en face d'un parc près d'une base militaire pleine de jeunes en forme. Lorsque je suis devenu adulte à mon tour, je n'ai développé aucun intérêt pour les courses d'endurance. Mes amis, mes camarades de classe et les collègues de bureau de mon âge ne couraient pas plus le marathon. Encore moins des Ironman. ce n'est que plus tard, dans la trentaine ou la quarantaine, comme mes oncles et mes tantes, qu'ils se sont mis à avaler des kilomètres. Mais cette dynamique est en train de changer. Le peloton rajeunit à une vitesse folle. Au marathon Beneva de Montréal le week-end dernier, 45 % des coureurs inscrits au marathon et au demi-marathon ont de 18 à 29 ans. Des chiffres impensables il y a 2 ou 3 ans. Avant, la tranche d'âge dominante, c'était les 40 ans et plus. Maintenant, c'est différent, confirme le directeur général de l'événement, Alex Raté. Les Z sont si enthousiastes que partout dans le monde, ils contribuent à éclipser des records de participation. Dans la dernière année, les inscriptions au marathon de New York ont augmenté de 22 % à Londres, de 35 % Les triathlons attirent aussi plus de jeunes que jamais, a récemment rapporté le Financial Times. Mais que s'est-il passé? Xavier Saint-Cyr est un de ces aides qui raffolent des longues distances. Précision, des très longues distances. Le marathon, ce n'est pas assez long pour moi. À 24 ans, il vient de gagner l'Ultra Trail Arikana, une course de 125 km dans les montagnes de Charlevoix. Pourtant, il y a 5 ans, il n'avait jamais couru de sa vie. Mes parents couraient, mais je ne les suivais pas. Je faisais surtout des sports d'équipe, soccer, rugby. Puis, la COVID a frappé. On ne pouvait presque rien faire en équipe ni à l'intérieur. Je cherchais une échappatoire. Parmi les seules choses qui étaient permises, il y avait la course et le vélo. C'est comme ça que j'ai commencé. La première fois, c'était un 5 km. Ensuite, j'ai augmenté la distance. Je me suis inscrit dans un marathon. On m'a expliqué qu'il y avait des crinqués qui couraient 160 km dans le bois. Je n'avais jamais fait de randonnée. J'avais seulement couru dans les rues autour de chez moi. Fin 2022, il participait à son premier ultra-marathon à Bromont. Aujourd'hui, tout le monde autour de moi court. Pas tous des courses d'endurance, mais presque la moitié fait de la course en sentier. Victor Raposo, 29 ans, pratiquait aussi des sports d'équipe avant la pandémie. Pendant le confinement, il a tenté quelques fois de courir, sans grand enthousiasme. Un problème de santé en 2022 l'a convaincu de s'y mettre plus sérieusement. Il vient de faire l'Ironman de Lake Placid. 3,8 km de nage, 180 km de vélo et un marathon à pied. Quand j'ai commencé à m'entraîner il y a 3 ans, ce n'était pas encore à la mode dans ma génération. Dans mes premiers triathlons, je me tenais avec 4 ou 5 autres personnes de mon âge. Les autres compétiteurs étaient plus vieux. Maintenant, je me tiens avec 50 d'athlètes de mon âge qui font des triathlons ou des courses de longue distance. Être sportif, être actif, c'est rendu cool. Partout au Québec, de nouveaux clubs de course se forment. Les jeunes Montréalais les trouvent particulièrement attrayants. Avant, raconte Alex Raté, il y avait 4 ou 5 clubs en ville. Aujourd'hui, il y en a une multitude le matin, le midi, le soir, le week-end. C'est devenu un phénomène dont on tient compte dans notre stratégie de communication. Ces clubs sont d'excellents cercles sociaux pour rencontrer d'autres passionnés de course et l'âme sœur. L'entremetteuse par excellence, Strava. Cette application permet aux coureurs de partager leur circuit, leur chrono et d'interagir avec les autres membres du réseau. Mais ce n'est pas la seule appli populaire auprès des jeunes coureurs. Alex Raté croit fermement que l'explosion de l'intérêt des aides pour les courses d'endurance est liée à la croissance des réseaux sociaux. La pression des pairs, ça existe. De voir un membre de notre famille, un ami ou surtout un influenceur s'inscrire à un marathon, ça peut nous motiver. Il y a des défis sur TikTok. Des influenceurs invitent les gens à suivre leurs courses. Des personnes d'ici, comme Danovic Pitre et Rachel Dion, mais aussi de l'international, comme le Français Anthony Frontera, qui est très suivi. On sait que le premier critère d'adhésion pour la course, c'est souvent de voir courir quelqu'un d'autre. Même les Olympiens Charles-Philibert Thibouteau et Thomas Fafard, spécialistes du demi-fond, s'y intéressent. Le premier conclura sa carrière au marathon de New York en novembre. Le second a annoncé son intention d'être sur la ligne de départ du marathon des Jeux de Los Angeles en 2028. Dernièrement, une des personnalités québécoises les plus aimées des Z, G. Dutemple, a attiré les projecteurs sur l'Ultra Trail Arikana auquel il a participé. Ses 423 000 abonnés sur Instagram, 225 000 sur Facebook et 29 000 sur TikTok ont pu suivre son entraînement et sa course. Une visibilité exceptionnelle pour un sport de niche. Les réseaux sociaux ont un impact, c'est certain, soutient le directeur général des événements Arikana, Samuel Matte-Thibault. Depuis 2024, on remarque un gros engouement. Beaucoup de gens mettent ce type d'activité de l'avant sur les réseaux sociaux. Ça peut influencer d'autres personnes à se lancer dans des défis comme celui-là. Son événement attire lui aussi plus de jeunes qu'avant. En 3 ans, la proportion de coureurs de moins de 30 ans est passée de 23 % à 33 %. Une hausse significative. La course en sentier, c'est à la fois un sport individuel et collectif. Dans les longues distances, tu t'accroches avec des gens que tu rencontres. Tu passes de longues heures avec eux dans le bois. Ça plaît aux vingtenaires qui cherchent la compagnie de gens qui leur ressemblent. C'est une des sources de motivation du champion Xavier Saint-Cyr qui témoigne. On vit quelque chose de spécial ensemble. Ça nous incite à nous inscrire dans encore plus d'événements comme celui-là. Les plaques tectoniques bougent. Tout change vite, remarque Samuel Matte-Thibault. Même les célébrations d'après-course ont maintenant un goût différent. On donne pas mal plus de bière sans alcool que de bière alcoolisée. Dans les semaines qui ont précédé son Ironman, Victor Raposo a d'ailleurs évité toute goutte d'alcool. Mais pour la course à laquelle il s'est inscrit pour fêter ses 30 ans, il fera une exception. Je porterai un costume de bouteille Heineken et à tous les 5 kilomètres, je prendrai une shot de tequila, lance-t-il. Un clin d'œil à une phrase culte chez les vingtenaires. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Ils ont un marathon à finir. C'était Les Z fascinés par les longues distances, un texte d'Alexandre Pratt, paru le 19 septembre 2025 dans La Presse.